Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne soirée hier, que vous avez bien dormi. Donc apparemment, le peut-être s'est transformé en une réalité. Donc juste tout petit rappel, le micro, le bouton du milieu. Forte pression, ça devient vert, vous pouvez parler. Parlez bien vraiment avec le micro tout près de la bouche pour que les gens vous entendent bien. Petite pression pour le mettre en stand-by. Quand il est en stand-by sur la lumière orange, autre petite pression et il devient vert. À la fin de la session, la personne qui l'a, si vous pouvez complètement l'éteindre pour pas utiliser complètement toutes les batteries. Et puis après, petit rappel, donc la caméra, si vous avez besoin de sortir pendant les 2 heures, aucun souci, juste essayez de passer sur les côtés et au moment de passer dans le champ de la caméra, essayez de passer en dessous. Alors on va reprendre avec la méditation sur le souffle. Donc je donne le micro à Romain, c'est le chef du micro aujourd'hui. Méditation sur le souffle, donc comme d'habitude, on se concentre sur le point à l'entrée des narines et on observe les sensations à l'inspiration, à l'expiration. Pour ceux qui êtes habitués à cette méditation, essayez de bien apporter une clarté un petit peu à l'expérience que vous faites. Et donc d'être toujours vigilant, de voir si on n'est pas distrait et notre esprit se met pas à penser à autre chose, à partir à ce moment-là, simplement prendre conscience et le replacer sur l'objet de méditation. C'est parti pour 10 minutes. Et on génère maintenant l'attitude bienveillante d'amour et de compassion qui souhaite que tous les êtres, sans la moindre exception, puissent obtenir le bonheur parfait de la libération, les causes du bonheur, qu'ils puissent être tous libres de toutes les souffrances, quelles qu'elles soient, mais aussi des causes de ces souffrances. Et on maintient cette attitude pendant 5 minutes. Et on prend le livre de prière à la page 73 pour la louange au Bouddha Shakyamuni. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, allez au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakya, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé je suis suprême en ce monde. À vous, sage en ces temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil à l'or, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas, à vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi aller, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. Au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré, montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation. Avant, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du dharma, hommage à la noble Sangha. Avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes digne de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une infinité d'actes vertueux, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'essence de l'existence cyclique, agitée par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Et à la page 79, le Sutra du cœur. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici qu'une fois j'ai entendu, le Bhagavan se trouvait à Rajakriya, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara, les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Aryavalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadviputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental, et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voix. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se font-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas des trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra la perfection de la sagesse, le mantra la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasangate bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Aryavalokiteshvara en disant « Bien, bien, au fils de lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Shariputra, le bodhisattva mahasattva Aryavalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas, fut remplir de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Et au milieu de la page 82, la prière à la Dakini au visage de lion. Je me prosterne devant l'assemblée des Dakini des trois chakras qui demeurent dans le yoga sacré de la jouissance de l'espace. Par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère prend soin de son enfant. Akasamara tsachadara samaya pe akasamara. Akasamara tsasha samaya petayata gate gate paragate parasangate bodhisattva. Par les enseignements des trois joyaux suprêmes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles intérieurs et extérieurs soient transformés, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que toutes les forces négatives contraires au dharma soient complètement pacifiées. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes au dharma, puisse tous les plaisirs être en accord avec le dharma, puisse le bonheur parfait, tout ce qui est de bon augure, régner ici et maintenant. Et à la page 89, la prière de refuge et de bodhicitta.
Oh. Dola benje zange do ba jo za enge enje dan zoge chenom la e janjo ba do dan inge zuji da ge chen yengi be zen angi dola benje zange do ba jo.
Alors, hier, nous avons vu le potentiel incroyable qui était le nôtre. Ensuite, nous avons vu que, malheureusement, nous faisions quatre erreurs fondamentales qui étaient de, si mes souvenirs sont bons, considérer ce qui était impur comme pur, considérer ce qui était de la nature de la souffrance comme étant du bonheur, considérer ce qui était impermanent comme permanent, et finalement considérer ce qui était sans soi comme possédant un soi, à comprendre par exemple, considérer que quelque chose existe de manière complètement indépendante, autonome, alors que cette chose existe d'une manière complètement interdépendante, en dépendance d'une multitude d'autres facteurs. On a mis l'emphase après donc sur la troisième erreur, qui était de considérer des choses impermanentes comme étant permanentes, et on a réfléchi à l'impermanence subtile. Donc, d'un point de vue bouddhiste, si vous voulez le bonheur, il faut vraiment, sans aucune retenue, abuser de cette sagesse qui comprend, qui réalise l'impermanence subtile de ce que nous sommes, de tout ce qui nous entoure. Et donc, plus on va développer cette sagesse, moins on aura de souffrance, puisque cette sagesse neutralisera déjà beaucoup de niveaux d'ignorance, d'attachement et d'aversion qui entraînent beaucoup, beaucoup de souffrance. Ensuite, on a commencé donc à tout simplement réfléchir aux avantages qu'il y avait à penser à la mort et tous les désavantages à ne pas le faire, en essayant de bien clarifier quel était le type de conscience de la mort qu'on essayait de générer. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel type d'avantage il y a à réfléchir à la mort? Donc on a vu le premier, c'est tout simplement, on devient déprimé. Non, c'est pas ça. Franck, c'est ça? Dans cette rangée-là, tout derrière. Puis, petit rappel aussi, on avait vu hier que Gisèle nous disait que, qu'est-ce qui se passait? On mourrait comment? Tout seul. Ah, d'accord.
C'est parti. Oui, en fait, si on réfléchit à la mort, eh bien, on va se rendre compte qu'elle est imminente, enfin, qu'elle peut arriver à n'importe quel moment. Et du coup, eh bien, on va se dire, eh bien, on est en vie et faisons-en quelque chose de très positif, quoi. Mettons-nous dans l'éveil.
Donc en synthèse, effectivement, on pourrait dire que cette méditation sur la mort, elle est faite pour contrecarrer quelle attitude négative, des attitudes de paresse, de procrastination. Donc de reporter toujours à plus tard, là les choses importantes, c'est une antidote donc à la paresse, à la futilité de s'engager donc dans des attitudes, des actions qui ne mènent à rien, ou même ça peut être un très bon antidote pour beaucoup de fait de s'engager dans beaucoup d'actions négatives. Si on a conscience un petit peu du résultat qu'elles vont entraîner, en voyant l'imminence du fait qu'on va pouvoir par exemple perdre cette vie, ces actions négatives risqueraient de nous emmener dans des états de renaissance extrêmement douloureux. Donc En essence, si on doit vraiment retenir quelque chose, la méditation sur la mort, elle est faite pour vraiment nous donner une énergie extrêmement forte intérieure pour vouloir utiliser cette opportunité qui nous est donnée pour vraiment développer le potentiel incroyable qu'on a. Donc après, on a commencé à réfléchir sur cette méditation proprement dite, sur la mort, ou la conscience de la mort. Et le premier point sur lequel on a réfléchi, c'était quoi ? La mort, elle est inévitable. Donc on va tous crever, pour parler simplement. On a vu trois raisons pour bien clarifier ce premier point. C'était donc, rien ne pouvait empêcher en fait la mort. On n'avait aucun lieu, on ne pouvait pas aller se planquer quelque part pour éviter ce moment. Qu'en fait, chaque instant qui passe, à partir du moment où on est, nous rapproche de cette mort. Et un point, je pense, on peut mettre beaucoup, beaucoup l'emphase là-dessus, surtout pour un petit peu détruire la paresse ou le fait de s'engager dans beaucoup trop d'actions complètement inutiles. C'est quoi le dernier point ? Ça, c'est, on va voir ça après. Mais la troisième raison. Donc, Olivier nous propose que, au fait, au moment de la mort, on va mourir, qu'on ait pratiqué le dharma ou pas. C'est-à-dire qu'on va mourir, qu'on s'y soit préparé ou pas. On va mourir, qu'on ait créé les causes pour avoir une bonne renaissance, qu'on ait créé les causes pour aller vers la libération ou l'illumination, ou pas. Donc, même si on a créé tout un ensemble de causes extrêmement négatives, donc qui vont nous propulser dans des expériences de souffrance terribles, on va devoir quand même mourir, et donc on va devoir tout simplement se diriger vers ces expériences extrêmement douloureuses. Donc après, quand on a examiné ce point, on a vu qu'en fait, dans notre vie, peut-être que, de manière générale, on consacrait en fait très 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 peu de temps à des choses vraiment essentielles, qui nous sont vraiment utiles en termes de cause pour aller vers du bonheur. Et par contre, on passait énormément de temps à faire des choses qui, elles, étaient beaucoup moins vital, on pourra dire. Ouais. Et donc là, je vous avais bien dit aussi, c'est une méditation qui est faite pour vraiment développer une très forte détermination. Donc on met toutes les chances de notre côté pour développer cette détermination. Mais on avait pris l'exemple donc de Gary qui disait au top, top, maximum, quand il était dans ses bons jours, il méditait 2 heures. Mais en fait, on a dit, est-ce que la pratique se limite juste à ces 2 heures ? Pas en fait. Justement, quand on commence vraiment à essayer de se transformer intérieurement, même nos activités de la vie de tous les jours, en fait, elles allaient devenir, d'une certaine manière, une pratique. Okay? Donc, cause de bonheur. Donc là, je pense que vraiment, on peut prendre un petit peu du recul et essayer d'examiner notre vie. Comment est-ce qu'on vit notre vie ? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie ? Est-ce que, peut-être, il serait pas bon d'effectuer quelques tout petit réajustement de rien du tout, okay, pour tout simplement s'assurer, créer des, toujours plus de causes de bonheur. Donc d'utiliser notre vie, là vous allez essayer de me répondre, pour faire quoi ? Créer ces causes de bonheur, c'est quoi les causes du bonheur ? Donc d'avoir une bonne éthique, première chose, ensuite Olivier nous dit développer la sagesse. Donc la sagesse, il faut la mettre de pair aussi, je pense, avec la concentration. La concentration va pouvoir nous donner une stabilité mentale et une profondeur mentale pour vraiment donner une très grande puissance, par exemple, à notre sagesse. Romain nous proposait aussi, après, l'altruisme. Développer, effectivement, des attitudes altruistes, d'amour, de compassion, l'esprit d'éveil, s'engager dans les six perfections, etc. D'accord. Donc c'est tout simplement prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on fait dans notre vie et essayer de la réorganiser pour pouvoir tout simplement être plus dans des attitudes d'éthique, être plus dans des attitudes de pratique où on va développer la concentration, la sagesse, l'esprit d'éveil, des attitudes altruistes. Le deuxième point, donc ce qu'on appelait au niveau des questions pour un petit peu le module, ou la deuxième racine de cette méditation, c'est quoi ? C'est donc la première, la mort est inévitable, donc je vais pratiquer. La deuxième, le moment de la mort, lui, est-ce qu'il est très clair, bien défini ? Est-ce que je peux me dire, bon, voilà, alors là, maintenant, je vais, cette année, je vais avoir 40 ans. Donc, ben voilà, je vais vivre jusqu'à quel âge ? 80, c'est pas beaucoup. Oh. Là, j'habite avec une vieille dame qui a déjà 98. Donc, on va dire, allez, 100 ans, en gardant toutes mes facultés mentales. Donc, je peux planifier tout simplement ma vie. Et je dis, bon, ben, je vais faire tant d'années de, par exemple, me divertir. Ensuite, il faudra se préparer un peu à la mort. Donc, je vais faire un petit peu des retraites, développer la concentration, la sagesse. Au bout du compte, quand est-ce qu'on va mourir? Bientôt. Bientôt, peut-être. On ne sait pas. Et donc, la première raison qu'on va utiliser un petit peu par rapport à ce deuxième point, que la mort est incertaine, c'est que la durée de vie sur la planète Terre, chez les êtres humains, elle est absolument pas définie. Quand est-ce qu'on peut mourir? Ben, tout simplement, regardez, il y a donc un petit être qui est conçu, donc qui est dans le ventre de sa mère, dans la matrice de sa mère. Il peut déjà mourir à ce moment-là. Ensuite, il peut mourir à la naissance. Quelques jours, quelques semaines après la naissance. Quelques mois après la naissance. Dans les premières années, on peut mourir quand on est un jeune enfant, par exemple entre, on va dire, 2 et 12 ans, je ne sais pas quel âge commence l'adolescence. Donc on peut mourir à l'adolescence, on peut mourir entre 20 et 30 ans, 30 et 40, 40 et 50. On peut mourir en fait à n'importe quel âge. Et au niveau de la méditation, quelle est en fait la période à laquelle on pourrait mourir qui est la plus intéressante pour nous? Quelle est en fait un petit peu la tranche d'âge sur laquelle on va méditer? Là, maintenant, qu'est-ce que t'entends? Donc là, Olivier nous propose en fait de méditer sur le fait qu'on peut mourir dans la tranche d'âge qui nous concerne nous-mêmes. C'est-à-dire que ben, si on approche de la trentaine, tout simplement, ben, on peut se dire, ben, on peut mourir en approchant de la trentaine. Si, t'as quel âge, Olivier? 29 ans. Ah ben, justement. Okay. Eh, même pas. En fait, dans la trentaine, mais peut-être un peu avant aussi, même, en fait. Donc, et ce qui est intéressant d'essayer de faire, en fait, c'est d'essayer de trouver dans notre entourage ou peut-être même dans les nouvelles, essayer de justement utiliser le fait qu'on regarde les nouvelles ou qu'on lit les journaux, etc., Internet, de manière assez constructive, c'est de trouver des exemples de personnes qui nous parlent donc plus particulièrement et des gens qui soient morts à 29 ans et qui se rapprochent de la trentaine. Ou si on a donc, comme moi, quel âge ? Ah oui, 39. Et j'approche donc tout doucement de la quarantaine. Prendre des exemples bien précis. Et plus on va prendre des exemples proches, plus ils vont nous parler. Ok. Et donc, il y a des gens, poum, à cet âge-là, ils sont morts. Exactement à l'âge qu'on a nous, ici et maintenant. Il y a des gens, ils étaient en train de prendre leur petit déjeuner, boire leur café, manger leur tartine, poum, terminé. Il y a d'autres gens, attention, hein, écoutez bien, hein, qui étaient en train d'écouter, qui étaient en train de bien écouter, et puis, poum, ils sont morts. Il y a eu un commentaire, là, je crois que c'était en Turquie, peut-être en Turquie, je me semble, un quart donc de touristes suisses, qui s'est renversé, il y a une personne qui est morte et plusieurs personnes qui étaient blessées. Et il y a un vieux monsieur suisse qui était interviewé et il a fait un commentaire, je trouve, assez intéressant. Il a dit, c'est, en fait, on croit que ça arrive toujours qu'aux autres. Mais non, c'est pas vrai. Ça nous arrive aussi à nous. Et donc là, c'est bien voir. Il y a des gens qui meurent à l'âge que j'ai là maintenant et ça pourrait très bien, en fait, m'arriver. Et il y a un jour, ça va définitivement m'arriver. C'est clair et net. Je vais mourir. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais mourir? Est-ce que je me suis doté de tout ce qu'il fallait pour m'assurer d'aller vers du bonheur? Oui ou non? Okay. Donc là, dans la méditation, à ce niveau-là, c'est de voir donc qu'on peut mourir à n'importe quel âge et qu'on ne peut absolument pas être certain de mourir, par exemple, à 100 ans. Parce que, en fait, dans la cosmologie bouddhiste, il fait des descriptions de lieux où là, c'est clair et net. On est, poum, on va vivre 100 ans, 1000 ans, puis après, la vie s'arrête. Est-ce que c'est notre cas ? Absolument pas. Donc après, là, par rapport à ces points-là, vous pouvez toujours vous appuyer sur la fiche de méditation 3, où donc les différentes réflexions sont résumées. Le deuxième point de cette réflexion, quel est-il ? C'est qu'en fait, il y a de très nombreuses causes de mort, et que trouver toutes les conditions pour au contraire soutenir la vie, elles sont beaucoup plus rares. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que, tout simplement, on peut mourir dû à des conditions extérieures. Genre, conditions extérieures, ben, tout simplement un incendie, tremblement de terre, tsunami, dans une tempête, une avalanche, dans des accidents. Donc là, les accidents, accidents de la route, accidents de train, accidents d'avion, accidents de bateau. Donc il y a des gens, ben, rappelez-vous, hein, qui sont allés faire une croisière, ils pensaient que ça allait être une semaine ou 10 jours où ils allaient pouvoir s'éclater, profiter, voir des nouvelles villes. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Capitaine, il a fait un peu, le n'importe quoi, un peu le zouave, et puis il y a 32 personnes, je sais plus, qui sont mortes. Okay. Donc en fait, beaucoup d'accidents divers et variés qui peuvent entraîner la mort. Il paraît que, vous savez quel est le lieu le plus dangereux, en fait, où il y a le plus d'accidents ? Et ? La maison à Lourdes. Non. Attends, prends le micro. Ça m'intéresse. Je suis sûr que ça va intéresser tout le monde. Il est où le micro ? Ah. Non, attends, tu vas le redire dans le micro. Tiens. Donc, il nous dit c'est l'hôpital. C'est l'hôpital, l'endroit le plus dangereux. Non, c'est la morgue. C'est la morgue et le cimetière. Là. Donc, elle nous disait, je vais le répéter parce que faut que vous en profitiez quand même, que Lourdes était l'endroit le plus dangereux parce que il s'était aperçu que il y avait énormément, beaucoup plus, un pourcentage beaucoup plus élevé d'accidents, où il y avait beaucoup d'accidents de la route, de gens qui se rendaient à Lourdes par rapport donc au fait de qu'on allait chercher, essayer une guérison, etc. Donc, je sais pas où elle a entendu ça, mais donc, il disait que donc il y avait beaucoup d'accidents quand même, donc c'était un endroit assez dangereux. Donc, dans une étude assez sérieuse, non, même très sérieuse, il paraît qu'un des endroits les plus dangereux où il y a le plus d'accidents, c'est la salle de bain. Ouais. Et entre autres, ben, tout simplement, glissade, etc. On glisse, on dérape, et on se fait très très mal. Bon, après, il disait que ça devenait de plus en plus marqué, plus on vieillissait, parce que donc après, on a peut-être au niveau équilibre, etc., moins de stabilité, mais qu'il y a énormément d'accidents qui sont liés, donc, tout simplement, dans le fait qu'on va à la salle de bain pour se laver, etc., et on peut tous donc glisser, comme je vous ai raconté hier, hein, même après glisser en marchant, comme il m'est arrivé, et puis vous vous tapez la tête, et puis ça y est, c'est terminé. Et après, aussi très souvent, un petit peu un paradoxe, c'est que des accidents mortels, où est-ce qu'ils vont se produire ? Quand est-ce qu'ils vont se produire ? Des fois, on va chercher en fait le bonheur quelque part, dans une activité, etc. Et cette activité, en fait, se retourne contre nous. On cherche le bonheur et qu'est-ce qu'on trouve ? La mort. Tout simplement, prenez ces exemples de personnes qui partent en montagne ou qui font du ski hors piste, qui meurent dans une avalanche. Okay. Donc là, donnez-moi d'autres exemples, en fait, comment on pourrait mourir dû à des conditions extérieures. Quoi d'autre ? Donc maladie, là, c'est ça va être contenu dans des causes intérieures en fait. Donc il y a bon des conditions extérieures, mais qui vont après complètement dérégler. Donc électrocution, effectivement, foudroyé. Il y a des gens qui meurent foudroyés. Hein. Et puis on dit là, on pourrait dire ouais, mais ça arrive qu'aux autres. Bah, peut-être pas du tout. Hein, peut-être que ça va nous arriver à nous. Donc Donc après, parfois, ben effectivement, hein, tout simplement des accidents au niveau du bricolage ménager, etc. Et donc on fait pas attention, on change un appareil électrique, il y a de l'eau et puis on est électrocuté. Tout simplement hier, non, je vous ai aussi parlé quand j'étais moine. Donc je suis pas mort, mais je faisais du jardinage. N'importe quoi. Ben non, c'est pas n'importe quoi. C'est pas... Donc, quel autre exemple? Donc, les catastrophes naturelles, on en a cité plusieurs. Tout simplement, effectivement, meurtre dans les guerres. Okay. Et encore une fois, là, on pense que, bon, ben, on va pas mourir, nous, dans une guerre. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Okay. Il peut tout simplement y avoir, après, au niveau politique... international des événements qui font qu'on va rentrer en guerre et par contre donc peut-être quelque chose qui nous semble plus possible, donc c'est peut-être pas mourir dans une guerre mais par exemple dans des attentats. Ouais. OK. Donc des attentats qui peuvent venir de vraiment de différentes sources. Et il y a eu des périodes où il y avait des crépuscules internes complètement contre le gouvernement et qui utilisait ces manières d'agir pour se faire entendre. Donc on pourrait mourir comme ça aussi. Donc beaucoup, 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 beaucoup de causes de mort possible extérieure. Au niveau de la méditation, donc premier point, on réfléchit au fait que la mort peut survenir à n'importe quand et que notre durée de vie sur cette terre, elle est absolument pas fixe. Deuxième donc réflexion, c'est qu'il y a énormément de causes variées de mort et entre autres les causes extérieures. Donc là, dans la méditation, c'est essayer vraiment de réfléchir à toutes les façons dont on pourrait mourir en dépendance de facteurs extérieurs. Ensuite, il y a les facteurs intérieurs. Donc, tout simplement, Olivier, ben, tu nous as mentionné mourir de maladie, dû à une maladie. Okay. Mourir tout simplement dû à un empoisonnement. Empoisonnement, donc après il y a une mort naturelle, la vieillesse, effectivement. Donc l'affaiblissement complètement de nos éléments intérieurs qui nous maintiennent en vie. Donc au niveau des maladies, là, ben, c'est bien d'essayer de réfléchir et de prendre le temps les différentes maladies dont on pourrait mourir. Okay. Donc après on va finir là-dessus, effectivement. Après, donc, je pense qu'au niveau interne, on pourrait avoir donc pensé tout simplement aussi à des exemples de personnes qui vont s'étouffer en mangeant, ok. D'autres maladies, ben tout simplement maladies cardiaques, des AVC, etc. Ok. Donc là, il faut vraiment essayer de peut-être avant de faire cette méditation, presque même de faire un petit peu des recherches, voir. Et oui, effectivement, je pourrais mourir comme ça, comme ça, comme ça. Je pense que ce qui serait intéressant aussi, c'est de passer un petit peu une journée type en revue. Par exemple, quand vous ne savez pas quoi faire le dimanche, pour vous reposer avant d'aborder une nouvelle semaine de travail, c'est dire, bon, alors voilà, une journée type. Ok, je me lève, je vais au travail, etc. Je rentre, par exemple, je m'occupe des enfants, dîner, je regarde un peu la télé, hop, et puis voilà. Et de regarder en fait toutes ces différents événements de la journée, comment j'aurais pu mourir, comment il y a des gens qui meurent dans des circonstances tout à fait similaires. Et là, on prendra vraiment compte, on se rendra compte du caractère extrêmement instable de notre vie, extrêmement, furtif, et que effectivement, en fait, la mort peut surgir absolument, à n'importe quel moment. Okay. Un autre point, en fait, c'est que, donc, très souvent, on utilise des choses pour nous protéger de souffrances. Mais que ces choses, ou nous faciliter la vie. Mais que ces choses, en fait, elles peuvent se retourner contre nous et être même, justement, la cause de notre mort. quand on cuisine, quand on mange, c'est pour se maintenir en vie. Mais justement, je me rappelle une fois quand j'étais en Italie, quand j'habitais dans un petit village là-bas, il y avait donc un monsieur, un chasseur, et il connaissait très très bien les champignons. Donc souvent, ben, s'il trouvait pas de gibier, qu'est-ce qu'il faisait, que c'était la saison des champignons, il ramassait les champignons. Donc une fois, il a ramassé plein de champignons, il avait un panier rempli de champignons, il rentre à la maison, il préparait les champignons, ils ont cuisiné les champignons, là, toute la famille s'est retrouvée à l'hôpital. Donc ils ont eu la chance, personne n'est mort. Mais donc là, on essaye d'absorber quelque chose, donc, pour soutenir notre corps, pour pouvoir vivre, et ça se transforme en une cause de maladie ou même de mort. Les événements là récents, il y avait eu en Allemagne donc une fabrique de pousses de bio, de pousses de soja, etc. Et les gens donc allaient faire leurs courses tout simplement, achetaient des choses qu'ils pensaient être extrêmement bonnes pour la santé, etc. Ça s'est transformé en fait dans la condition qui a entraîné leur mort. En France aussi, donc ça c'était en Allemagne, mais il y a eu des cas plus ou moins similaires en France, donc avec d'autres produits. Mais donc on prend un aliment avarié et c'est fini. Une voiture, c'est fait pour nous faciliter la vie. Ouais. Des fois, tout simplement, la voiture devient notre cercueil. Deux roues, pareil. Okay. Tous les transports, pareil. Notre maison, elle est faite pour nous protéger du chaud, du froid, des intempéries, etc., pour avoir un endroit protégé, même parfois se protéger contre des agressions extérieures, la maison peut se, en fait, transformer en notre propre bourreau. D'accord ? Et en fait, le dernier point de l'analyse de cette méditation, c'est quoi ? C'est que notre corps, comment on va le qualifier, notre corps, à votre avis ? Donc, tu dis permanent, impermanent. Il est impermanent, mais même en fait, très souvent, surtout, c'est peut-être un attrait des hommes, ils vont se penser très forts, très résistants. Mais en fait, donc là, l'exemple de Chantal, la nonne Chantal, qui avait montré que juste une petite miette de rien du tout était suffisante pour nous tuer. Juste donc un tout petit déréglage interne et on peut mourir. Une toute petite goutte de rien du tout pourrait suffire à complètement nous anéantir. Par exemple, une bactérie, qu'est-ce que c'est ? C'est rien, c'est un truc, mais on peut même pas voir à l'œil nu. Hop, ça nous règle l'affaire. En fait, le corps, il est extrêmement fragile et c'est extrêmement difficile de maintenir un équilibre qui fait qu'il soit en bonne santé. C'est beaucoup plus facile, en fait, de dérégler cet équilibre. Et si le déséquilibre est suffisamment fort, c'est fini. Je sais pas pourquoi, vous avez pas l'air super joyeux, là. Ça va bien, hein, c'est cool. Donc là, la méditation, elle suit vraiment la première étape. On va mourir, donc parce que y a rien qui peut empêcher la mort. Chaque instant qui passe nous rapproche de la mort. On meurt, qu'on s'y soit préparé ou pas, et en fait, si on est un peu honnête, très souvent, on n'a rien fait de vraiment très très utile. Donc on développe une décision, laquelle je pratique. Okay ? Après, on va donc continuer cette réflexion. On va se dire, mais en fait, donc je vais mourir, c'est clair, donc je vais pratiquer. Mais quand est-ce que je vais mourir ? Ben j'en sais rien. Parce que ma durée de vie est complètement incertaine. Parce qu'il y a énormément de causes de mort. Extérieure, intérieure, même ce qui est normalement censé m'aider peut se retourner contre moi. En fait, je sais pas du tout quand est-ce que je vais mourir aussi. Pourquoi ? Parce que mon corps est extrêmement fragile. Donc là, quelle est la détermination qu'on va générer ? C'est j'ai pratiqué, mais j'ai pratiqué quand ? Ben non, moi je vais pratiquer, je sais pas, j'ai des choses à faire l'année prochaine, quoi. Donc là, effectivement, la détermination qu'on génère, c'est je vais pratiquer de suite. Okay. Et un autre facteur, donc je reviens dessus, qui est extrêmement important, quand on dit je vais pratiquer, c'est pas je vais réciter des prières, c'est pas... Non, c'est vraiment intérieurement, je vais essayer de changer complètement ce que je suis, changer mon comportement pour avoir une éthique, changer donc vraiment ma vision interne. Donc, au lieu de toujours me suivre mon ignorance, mon attachement, mon aversion, au contraire, transformer ça en de la sagesse, etc. Je vais transformer mon attitude égoïste dans une attitude altruiste. Quand est-ce que je vais faire ça? Maintenant. Ça marche? Donc, on va tout simplement méditer pour générer ce genre de détermination. Donc là, la méditation, ce que vous faites, c'est très brièvement, vous reprenez les points qu'on a vus hier. La mort est certaine. Pour les trois raisons. Donc, je vais pratiquer. Je vais vraiment tourner mon esprit vers l'éthique, etc., etc. Ensuite, là, on va vraiment prendre le temps, donc, de réfléchir. Mais quand est-ce que je vais mourir? Ben, j'en sais rien. Pour les trois raisons. Donc, que les causes de la mort sont très nombreuses, que sur cette planète, la durée de vie n'est absolument pas déterminée. D'accord? Et donc, le dernier, que mon corps est extrêmement fragile. Donc là, on génère, après cette détermination extrêmement forte, se dire, je vais pratiquer maintenant. Ça marche? Des questions? Oui. Avec le micro? Non, on fait la méditation, puis on... Donc les questions, c'était par rapport à la méditation, mais donc on va... Une question qu'on va couvrir. Ça fait déjà la deuxième fois. Bon, demain. Bon, après la méditation. Et encore une fois, essayez de, quand vous générez cette détermination, de se dire, OK, je vais pratiquer maintenant, d'associer cette détermination avec vraiment de la joie. Pourquoi? Je l'ai dit hier. Parce qu'on peut développer notre plein potentiel. Donc, en d'autres mots, c'est, si on pratique, tout simplement, qu'est-ce qu'on pratique? C'est on crée les causes de notre bonheur futur, de notre véritable pur bonheur. On crée les causes pour développer des qualités pour pouvoir aider les autres. Donc c'est génial. Okay? Donc au sortir de cette méditation, c'est pas là, on n'est pas complètement vautré, replié sur soi-même, déprimé, dire « Ah, je vais mourir, je sais pas quand ». Non, c'est ah, je vais mourir, donc je vais pratiquer, et je vais pratiquer maintenant, je vais créer les causes de ce bonheur maintenant. Donc c'est une énergie qui peut être extrêmement forte. D'accord? Donc soyez pas trop fort quand même à la sortie de la méditation, sinon vous allez me faire m'envoler. Alors c'est parti pour 10 minutes. Ok. Donc on va pratiquer le dharma et on va pratiquer le dharma tout de suite. Parfois, on n'est pas très habile avec notre esprit et il y a un petit risque, par exemple, par rapport à cette méditation, c'est d'avoir une attitude un petit peu extrême et de se dire, bon, allez, il faut tout le temps que je pratique, en fait, etc. Donc, si on avait vraiment les capacités pour ça, il n'y aurait aucun souci. Mais par manque d'habitude, tout simplement, par manque de familiarisation, physiquement, mentalement, on a aussi quand même besoin, des fois, tout simplement, de se reposer, se régénérer, se détendre. Donc là, cette méditation, il faut vraiment voir donc que c'est l'antidote à vraiment la paresse. C'est l'antidote à juste s'engager que dans des attitudes, des actions complètement futiles ou voire même négatives. D'accord. Mais par exemple, ce qu'il faut voir, c'est que notre développement, ça va être un développement qui va s'effectuer sur du très long terme. Donc on va regarder notre pratique, on va la projeter justement sur du très long terme. Et pour pouvoir aller pendant longtemps, qu'est-ce qu'il faut faire? Genre, tout simplement, vous prenez le 100 mètres, la course du 100 mètres, le marathon. Okay. Là, notre vision, c'est celle du marathon. Donc, est-ce qu'on va partir comme sur un 100 mètres? Non. Okay. Donc là, il faut tout simplement vraiment être conscient donc de ce que nous sommes, etc. Et donc, on veut avoir une pratique sur le très très long terme. Donc, pour pouvoir tenir sur le long terme, il faut partir relativement doucement. Et à la rigueur, petit à petit, en connaissant bien nos capacités, on peut un petit peu augmenter la cadence. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui avaient une très très forte détermination, qui voulaient vraiment, effectivement, aller vers le bonheur, créer les causes du bonheur, donc pratiquer. Mais ils avaient une vue qui peut-être n'était pas une sagesse qui englobait absolument tous les paramètres, et donc ils faisaient complètement le forcing. Et au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, qu'est-ce qui se passe? Ils sont complètement vidés, épuisés, etc. C'est en fait là un mode de fonctionnement de l'esprit qui est extrêmement conceptuel et qui force, qui force, qui force, qui force. Okay, et à un moment, ça casse. Donc là, en fait, non, c'est par la force de l'habitude juste de revenir encore et encore, petit à petit, avec la flexibilité naturelle de l'esprit, on va changer sa direction. Mais donc cette méditation, quand même, elle est extrêmement bonne pour faire face à cette belle habitude de paresse ou de toujours remettre à plus tard des choses vraiment importantes. Okay? Parce que bon, ben, naturellement, on va se dire « Ah, on est en forme, etc. Ah, mais bon, ah non, je préfère les skis ce week-end. » Ou « Ah non, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu ces personnes, il faudrait que j'aille les voir. » Au lieu de faire quelque chose qui est vraiment extrêmement important sur le long terme pour nous, alors qu'on n'avait pas vraiment besoin, forcément, de prendre ce moment de détente, etc. Donc après, surtout, je pense, avec le mode de vie occidental, on a un mode de vie assez effréné en Occident, très très chargé, donc on a besoin, bien sûr, de se ressourcer, de prendre du temps, de se reposer, des fois juste de se détendre. Et si vous me permettez... donc hier soir, je dînais avec des personnes, et puis... j'ai mentionné une parole de Serge Gainsbourg qui disait « La connerie, c'est la relaxation de l'intelligence. » Donc des fois, on fait des efforts, on fait beaucoup d'efforts, etc. Donc on a besoin de se détendre après. Okay? Et c'était un ami moine, quand j'étudiais en Italie, qui souvent sortait cette expression parce que on étudiait vraiment, c'était très très intellectuel. Donc au bout du compte, à la fin de la soirée, la journée, l'esprit était vraiment fatigué. Et des fois, on regardait des films qui étaient vraiment bêtes. Et donc, il disait, la connerie, c'est la relaxation de l'intelligence. Parce que tout simplement, en faisant ça, eh ben, on détendait l'esprit. L'esprit, une fois qu'il était détendu, il pouvait tout simplement se remettre au travail. Et si on n'a pas un petit peu cette habileté, on fatigue l'esprit, et après ça peut même donc entraîner tout simplement des maladies chronique, grave, etc. Si on force, on force, on force, on force. Donc il faut trouver le juste équilibre. Donc avant de venir à cette question sur le suicide, on va peut-être juste regarder le dernier aspect de la méditation. Et je reporte encore. Oui, mais là, c'est pour pas trop découper là, un petit peu la trame de ce qu'on fait. Hein. Donc, on a vu là, la mort est certaine, donc il faut pratiquer. Son moment est incertain, donc il faut pratiquer maintenant. Et le dernier point, c'est que qu'est-ce qui va vraiment nous être utile en essence, fondamentalement, pour le futur? Qu'est-ce qui va vraiment être utile pour aller vers le vrai pur bonheur? La pratique, uniquement le dharma, la pratique, donc le reste n'a pas vraiment d'importance. Et comme je vous ai dit hier, il y a un risque quand même au niveau de, avec le temps, au niveau de la pratique, c'est que notre motivation, même si parfois, souvent au début, elle est pure, elle va un petit peu dégénérer. Parfois, même dès le début, elle peut être un petit peu pas si juste, correct que ça. Et donc, c'est bien réfléchir que uniquement vraiment le développement de ses qualités intérieures est importante. Parce que parfois, là, on va voir que au moment de notre mort, tous nos amis, donc les amis, là, c'est vraiment à la différence d'ennemis ou de gens dont on se moque. Donc, c'est un regard très biaisé qui est construit vraiment sur l'attachement. Okay? Et on peut voir des amis, c'est les amis, d'une certaine manière, des amis mondains qu'on va voir pour se divertir, etc. Ces gens, est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider au moment de mourir? Pourquoi Gisèle? Parce qu'on meurt seul. Okay? Et on peut voir quand même, dites-moi sincèrement, est-ce que vous n'avez pas des gens que vous fréquentez parce que vous passez juste un peu du bon temps avec eux, etc. Mais au niveau vraiment de la relation, est-ce que la relation apporte quelque chose de vraiment constructif au niveau de l'éthique, au niveau du développement de la sagesse, de l'altruisme, etc.? Des fois oui, des fois non. Donc il y a des fois non. Et des fois, il y a avec certaines personnes, bon, on passe du temps juste pour passer du temps, juste pour se divertir. Ok, parce qu'on s'entend relativement bien avec eux et on va parler de choses et d'autres, on va aller voir un film ensemble, on va dîner ensemble, on va faire un voyage ensemble. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et donc quand on commence à s'orienter un petit peu dans une pratique spirituelle, même des fois il y a des gens qui nous en veulent parce qu'on passe pas assez de temps avec eux. C'est vrai ça, non? Et ça montre bien que en fait au niveau de la relation, ce qui se passait c'était pas forcément si constructif que ça. Philippe, il nous dit c'est compliqué. Regardez très souvent en fait dans les gens qui sont pas forcément engagés dans une recherche intérieure. Ils vont passer du temps avec des gens juste pour passer un bon moment. Ouais. Donc parfois, bon, ils sont dans une difficulté et ils peuvent essayer d'aller apporter une difficulté à ces gens-là. Donc là, c'est quelque chose de constructif. Mais très très souvent, en fait, dans les relations qu'on crée, on va passer du temps avec des gens parce qu'on espère tout simplement que ici et maintenant, on va en tirer un bénéfice. Mais c'est une vue donc extrêmement réduite. Et au final, donc on peut passer beaucoup de temps à ça. Mais est-ce que ces êtres vont nous aider véritablement au moment de la mort? Est-ce que véritablement, sur le long terme, ils sont bénéfiques? Donc en fait, ce qu'on nous dit, c'est que ce qui est vraiment uniquement important, c'est la pratique. Et donc en fait, avec le temps qu'on est engagé dans la pratique, on peut faire certaines choses tout simplement pour pas être seul. On peut aller par exemple à l'institut, passer un week-end à l'institut, parce que ben on rencontre des gens sympas, etc. On n'aime pas être seul, on a la compagnie. On peut tout simplement faire des fois des choses pour tout simplement après épater les gens. On peut tout simplement faire par exemple une retraite pour épater les amis. Donc là, la motivation en fait elle bifurque vers quelque chose qui est absolument pas utile. Donc après, même chose, par rapport aux ressources, par rapport à la richesse. Est-ce que au moment de mourir, est-ce que vraiment, essentiellement, de posséder de l'argent, posséder énormément de biens, ça nous permet de créer des causes de bonheur quand on a une attitude, en fait, d'attachement par rapport à ça, par rapport à ses possessions. Au contraire. Donc, là encore, on doit vraiment s'assurer que notre seule motivation pour pratiquer, c'est uniquement de développer ses qualités intérieures et absolument pas d'avoir, extérieurement, on donne l'impression de vouloir pratiquer pour se transformer intérieurement, mais en fait, en dessous, on veut obtenir quelque chose d'autre. Donc, on souhaiterait, par exemple, obtenir des biens, etc. Donc là, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'assurer de la qualité extrêmement pure de notre motivation. Parce que si, en fait, comme je vous ai dit hier, par exemple, quand il y a des personnes ordonnées, des moines, ils peuvent être amenés à faire des rituels, etc. Ils peuvent les faire, vraiment, dans l'optique d'obtenir un bien matériel. Là, est-ce qu'il y a vraiment une pratique intérieure, vraiment une transformation intérieure? Non. Ils veulent juste obtenir, donc, par exemple, de l'argent. Et l'argent, est-ce que ce sera utile au moment de la mort? Absolument pas. Okay. Au niveau de la pratique, arrive un moment, peut-être vraiment que pour nous, on va faire des choses pour un petit peu épater la galerie, épater nos copains. Est-ce que ça va nous aider ça? Non plus. Petite anecdote. Il y a, donc je vais pas citer de nom, mais il y a une vieille dame, donc, qui a un peu d'argent quand même. Et puis, il y avait son fils, qui lui a proposé de faire une offrande à des moines qui sont en train de faire un tour européen en ce moment. Et puis, il y avait un dialogue assez intéressant. Et justement, le fils, il a dit à sa mère, mais maman, mais tu vas pas emmener cet argent avec toi. Donc, elle est très vieille, cette dame. Donc, elle en est complètement consciente. Et puis, alors, ce qui était assez drôle au niveau du dialogue, c'est, le fils lui dit, ben, regarde, tu pourrais leur donner, je sais pas, 5000 francs. C'est des francs suisses. Alors, la mère, elle dit, ah ben non, quand même, là, c'est un peu beaucoup, quand même, 5000 francs. Il dit, mais de toutes les façons, tu as bien plus, qu'est-ce que tu vas en faire, tous ces sous, etc. Et puis, alors, il a été extrêmement habile, il a dit, parce que tu comprends, en plus, maman, regarde, ces moines, combien ils sont dans le monastère? Ils sont 5000. Donc, à Serra, Serradje, Serramé, en tout, ils sont 5000. Donc, en fait, c'est pas beaucoup du tout, ce que tu leur donnes. C'est un franc par moine. C'est rien, regarde. Donc, là, la maman, elle a dit, effectivement, là, c'est pas grand chose. Vu sous cet angle-là. Donc, elle a dit, ok, d'accord. Et, très souvent, regardez en fait comment on est attaché à nos possessions. Alors que, d'une certaine manière, effectivement, on a besoin d'une certaine partie de nos possessions pour vivre. Okay? Mais il y en a une très grande autre partie. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? On garde au cas où. Parce qu'on a peur de manquer quelque chose, etc. Quelle serait l'attitude la plus intelligente en fait à avoir? C'est quand on a suffisamment le reste. Ben, tout simplement, c'est presque comme en finance, ce qu'ils font, c'est réinvestir. Ce qu'on a là nous permet d'avoir ce qui est nécessaire, donc d'avoir un certain bien-être. D'utiliser le surplus pour créer les causes, justement, de pouvoir encore avoir ce qui est nécessaire plus tard. Donc tout simplement, de pratiquer la générosité. Exactement comme le font les fermiers. Qu'est-ce qu'ils font? Ils plantent les graines, ils récoltent, ils gardent donc ce dont ils ont besoin pour manger, pour vendre, etc. Mais ils gardent après le surplus pour pouvoir replanter. D'accord? Donc là, c'est quelque chose, je pense, très souvent, puisqu'en Occident, de par notre culture, en fait, comment on nous a formaté, on nous a dit où est-ce qu'il se trouvait le bonheur. Dans le bien matériel, la consommation matérielle, on a quand même, d'une manière inconsciente, créé beaucoup d'attachements par rapport à ces aspects-là. Et c'est travailler là-dessus et voir que on n'emmènera rien avec nous. Donc oui, on a besoin de certaines choses pour vivre. Mais après aussi, c'est petit à petit s'entraîner à essayer tout simplement de créer les causes pour justement que dans le futur, on ait toujours ce qui est nécessaire pour pouvoir subvenir, pour pouvoir se transformer intérieurement, pour pouvoir continuer à progresser et aller vraiment vers l'éveil. D'accord ? Dernier point, la méditation. Donc là, on voit en fait nos amis, ils vont pas nous aider au moment de la mort puisqu'on part tout seul. On n'emportera rien de matériel. Et en fait, dans cette vie, il y a quelque chose qui nous est extrêmement cher, important, auquel on tient énormément. C'est quoi ? Notre corps. Regardez, ma femme, là, elle a dû se faire arracher une dent, une dent de sagesse. Et puis, donc elle avait mal aux dents, etc. Elle ne savait pas ce qu'elle avait. Elle est allée voir le dentiste. Puis le dentiste, il a dit, ouh, là. Il fait une radio. Puis il a vu, il a dit, là, la dent de sagesse, celle-là, elle n'a rien à faire, il faut l'enlever. Et la première réaction de ma femme, c'était « Vous êtes sûr ?» Non, et on se dit « Ben non, c'est quand même, ça va me manquer, là, il y a quelque chose. » On a une très forte saisie par rapport à notre corps. On est extrêmement attaché à notre corps. Même, donc, le dentiste lui a dit « Là, il n'y a rien à faire. » Donc, il l'a arraché. Après, quand elle a vu la racine qui était complètement morte, elle a compris. Mais en fait, dans cette vie, très souvent, en fait, on met tellement, dépense tellement, tellement, tellement d'énergie pour entretenir ce corps et pas dans la voie du milieu, pas le juste milieu. C'est on va passer des heures et des heures et des heures à la gym, ensuite dans la salle de bain, ensuite donc chez le coiffeur, chez le manicure, chez machin, chez chose, etc. Ok, donc très souvent en fait on a vraiment un attachement très très prononcé. Et même au niveau de la pratique, il y a peut-être parfois certaines personnes qui vont faire des pratiques, par exemple prosternation. Pourquoi ? Est-ce que vraiment c'est purement, uniquement pour, par exemple, créer une énergie extrêmement positive pour purifier, pour contrecarrer des attitudes négatives ? Parfois, peut-être que petit à petit, l'esprit dit « Ah, ben oui, non, c'est pas mal, la prosternation, j'ai un peu de poids, je vais le perdre. » Ou « Ah, un peu de prosternation, ça va, par exemple, peut-être je vais faire un peu des muscles, etc. » On sait jamais. Une fois, j'ai entendu un lama qui disait « Ah, peut-être ce serait bien que j'aille faire un peu de sport, courir, parce qu'il paraît que les femmes aiment bien des hommes sveltes. » Donc en fait, on ne sait jamais, petit à petit, l'esprit, il peut trouver des avantages aussi au niveau de la pratique qui sont des avantages vraiment à un niveau mondain de cette vie-ci. Donc là, il faut vraiment s'assurer que notre motivation, elle reste complètement pure et elle ne va pas dégénérer. Regardez, il y a des gens qui font des nounés. Pendant les nounés, donc il y a un jour, ils mangent, mais ils mangent déjà pas normalement. Parce que donc quand on en fait plusieurs... Le matin, ils ont un petit porridge, quelque chose. Et puis après, ils mangent à midi. Et le soir, déjà, plus rien. Le lendemain, ceinture, rien. Et un jour comme ça, sur deux. On peut se dire, ah ouais, Nyuné aussi. Ah bah oui, non, mais en plus, bah oui, je vais maigrir. Il y a une autre pratique. Il y a une autre pratique qui s'appelle Chulen. Où en fait, on prend que des toutes petites pilules. Trois petites pilules maximum par jour. Qui sont faites à base de pollen. Et en Italie, donc ils faisaient pas ça pendant 3 semaines, ils faisaient un peu plus court, pendant 10 semaines. Mais il y avait beaucoup de gens qui venaient faire cette retraite, ils venaient juste la faire comme régime, c'est tout. Et déjà, c'est un très mauvais calcul, parce qu'on perd du poids très très vite, mais on le reprend aussi sec après, voire peut-être un petit peu plus. Okay ? Mais pour vous dire, en fait... Comment l'esprit un petit peu est sournois, ok, et que c'est très facile, même si au début on a une motivation qui est pure, de pouvoir dégénérer. Tout simplement parce que on a des habitudes extrêmement ancrées d'être préoccupé par ces choses dans notre vie de tous les jours, ok. Et avec le temps, votre pratique du dharma, qu'est-ce qui va se passer? Elle va tout simplement rentrer dans votre quotidien. Et en rentrant dans le quotidien, tout simplement, il y a le risque, si on ne fait pas attention, que ce qui nous anime pour faire ce quotidien, ce soit des attitudes d'attachement. Donc, attachement par rapport aux amis, d'attachement par rapport, donc, aux possessions, d'attachement par rapport au corps, etc. Donc après, est-ce que on est en train de dire il faut complètement rejeter l'aspect matériel extérieur? Non. Il y a un minimum. OK? Il y a encore un juste milieu, mais il faut pas tomber dans l'extrême et il faut être extrêmement vigilant de la motivation qui nous pousse à pratiquer. Donc peut-être que pour l'instant ça vous paraît un petit peu bizarre parce que pourquoi vous venez ici? Parce que vous cherchez vraiment des réponses. Ou si vous avez des réponses, vous essayez vraiment de les mettre en application face à une problématique. Mais avec le temps, si vous continuez à venir régulièrement, par exemple, chaque week-end, une fois par mois, etc., dans différents cadres de, tels que le PEBA ou la découverte du bouddhisme, etc. Après, en fait, peut-être que vous allez rencontrer des gens, vous allez vraiment devenir très très bon ami, passer des bons moments, etc., vous divertir, et puis que petit à petit, en fait, ah, vous êtes content. Pourquoi vous êtes vraiment content de venir à l'Institut? Pour voir les amis. Puis après, le dharma, ouais, ok, un petit peu, mais déjà, il commence à passer, tout simplement, au second plan. Ça peut être de plus en plus vrai. Regardez, tout simplement, moi, qu'est-ce que je fais? Je présente le dharma. C'est très facile, avec le temps, se dire, ah ben c'est une occasion pour rencontrer des gens. Ou peut-être qu'au niveau de ma motivation, c'est tout simplement, je fais ça pas pour partager quelque chose que j'estime être vraiment quelque chose d'extrêmement important, mais tout simplement pour que les gens trouvent que je présente bien les choses, etc. Avec le temps, c'est très très facile de tomber dans ce genre de choses. Okay? Ça pourrait être aussi comme, en fait, quelle est mon activité dans cette vie-ci, au niveau social avec les gens? Quelle est, par exemple, au niveau, dans les papiers administratifs que j'ai remplis là avec la Suisse? Quand ils m'ont mis profession, qu'est-ce que j'ai mis? Sur mon contrat de travail, qu'est-ce qui a marqué? Enseignant bouddhiste. Okay? Donc là, tout simplement, je pourrais voir ça comme un gagne-pain. Et à ce moment-là, au niveau, entre guillemets, pratique, est-ce qu'il y a une pratique véritable là? Si je vois juste ce que je fais comme un gagne-pain, c'est juste un gagne-pain. Au niveau véritablement transformation intérieure, cette activité, là, pour moi, il n'y a plus rien. Et regardez comme je fais que ça, en fait. Que justement, par exemple, je suis dans un centre et que le centre me donne à manger. Que le centre m'abrite, que le centre prend en charge un petit peu les frais médicaux que j'ai. C'est extrêmement facile de tomber dans une telle attitude. Donc là, cette méditation, elle est faite pour vraiment très bien recadrer notre motivation et être sûr de pas tomber là-dedans et être sûr que, par exemple, si moi je fais cette présentation ici, si j'arrive à bien appliquer cette méditation, que ma motivation soit pur, et même si en fait il y a secondairement ces choses-là qui arrivent, l'unique véritable motivation, détermination qui anime la personne qui fait ça, soit la transformation intérieure. Donc avec le temps, mine de rien, il y a un petit point, là, il y a Philippe qui dit c'est compliqué. Donc en fait, en résumé, le troisième point c'est de se dire, donc il faut pratiquer maintenant, et il faut pratiquer avec une motivation extrêmement pure, ne rien attendre d'autre que justement vouloir développer ses qualités intérieures, d'accord? Sinon, en fait, on va altérer cette motivation, donc on va altérer tout simplement le résultat de notre pratique, et on réfléchit pourquoi avoir cette motivation pure, c'est que ces aspects mondains, en fait, ne seront d'aucun secours véritable au moment de la mort. Donc si je pratique, c'est pas pour me faire des copains ou entretenir des bonnes relations avec les gens que j'aime bien, etc. C'est pas pour accroître mes possessions matérielles. C'est pas pour continuer à cultiver un attachement par rapport à mon corps, etc. C'est uniquement donc pour créer les vraies causes d'un pur bonheur. Ça marche ou pas? Je veux pas regarder Philippe parce que sinon il va m'expliquer l'aspect compliqué de la chose. Donc Jean-Pierre, tu dis, c'est l'un n'empêche pas l'autre. Donc après, c'est vraiment là, au niveau de la motivation, il faut que la motivation soit extrêmement pure. Et si, par exemple, au niveau de, on peut dire, notre corps, on l'emmène pas avec nous. Donc, de trop s'occuper du corps, c'est pas une bonne chose. Là, il faut voir vraiment quelle est la motivation qui nous anime. Par exemple, ce corps, tout simplement, c'est vrai, c'est le support de notre vie. C'est le support avec lequel on pratique. Donc, par exemple, d'essayer d'avoir un corps sain pour pratiquer, pour pouvoir continuer à se transformer intérieurement. Là, il n'y a pas de souci. De travailler pour avoir suffisamment pour manger, s'abriter, se vêtir, pour après aussi pratiquer. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pratiquer, en fait, avec l'arrière-pensée d'obtenir ces choses-là, juste pour elles en soi, parce qu'on va considérer que c'est ça qui va nous apporter le bonheur, c'est là qu'est le problème. D'accord ? Donc, par exemple, moi, dans mon cas, en faisant ça, le centre, il me nourrit, etc. Il me nourrit, et qu'est-ce que je vais essayer de faire de mon temps après ? Me transformer intérieurement, etc. Donc, si je fais ça, il n'y a pas de souci. Mais si je vois juste ça comme un gagne-pain, là, il y a un problème. D'accord ? Donc là, ces réflexions, elles sont faites justement pour s'assurer que notre motivation, elle demeure complètement pure par rapport à notre pratique. On essaye de faire la méditation ? Donc, on reprend les deux premiers points. La mort est certaine, donc je pratique. Le moment, lui, de ma mort est complètement incertain, donc je pratique maintenant. Et comme au moment de la mort, ni mes possessions, ni mes amis, ni même mon corps, ce à quoi je suis le plus attaché, va vraiment être une utilité, il faut que je pratique d'une manière complètement pure. Et là, on se concentre donc sur ce troisième point. Je pratique maintenant d'une manière complètement pure. Ce que je recherche vraiment dans mes activités que je qualifie de pratique, c'est le développement de l'éthique, de la concentration de la sagesse, de l'esprit d'éveil, des six perfections, etc. Juste pour revenir par rapport au dernier point, il y a des pratiques méditatives qui peuvent nous apporter des qualités, entre guillemets, pas forcément que spirituelles, mais mondaines. Par la concentration, vous pouvez développer par exemple la clairvoyance. Cette clairvoyance, elle peut être utilisée vraiment à des fins spirituelles, vraiment sincères, elle peut être utilisée vraiment à des fins mondaines aussi. Et il y a beaucoup d'autres qualités qu'on pourrait développer avec ce genre de pratiques. Si on n'est pas clair avec notre motivation, ça va pouvoir se retourner contre nous. Tout simplement, si vous vous entraînez à la méditation, vous développez des degrés de méditation extrêmement élevés, des degrés de concentration extrêmement élevés, vous développez la clairvoyance. Vraiment, c'est pas du pipeau. Vous arrivez à voir ce que pensent les gens, vous arrivez à voir des événements un peu futurs qui vont se dérouler. Vous pensez pas que vous allez pouvoir utiliser ça vraiment à des fins personnelles, égoïstes ? Mondaine, très très facile. Donc là, si la motivation, elle est pas juste, ça va être très très facile de bifurquer. Allez, on essaye donc de réfléchir pendant 10 toutes petites minutes sur ce point. Ok. Donc cette méditation est faite pour développer cette attitude. Il faut pratiquer, il faut que je pratique maintenant, il faut que je pratique avec une attitude complètement pure, une motivation complètement pure, une attitude qui est libre des 8 dharmas mondains qu'on a vus, qui sont des préoccupations, plus d'une recherche d'un bien-être ici et maintenant, etc. La question.
Oui, donc, qu'en est-il du suicide ? Et par rapport à la relation qu'on a eue avec cette personne, est-ce qu'on peut se sentir coupable d'un tel acte ?
Donc, qu'en est-il du suicide ? Juste par rapport à ce point-là, est-ce que vous pouvez préciser la question ?
Mais qu'est-ce qui se passe pour une personne qui se suicide après son suicide.
Ouais, donc on va voir tout simplement ça cet après-midi. Cet après-midi, on va voir. Non, mais je vais répondre à la deuxième partie de la question quand même. Donc, il y a tout simplement la personne va passer dans le processus de la mort, dans ce qu'on appelle un état intermédiaire et une renaissance, comme tous les êtres. Donc après, il y a justement différents facteurs qui vont influer sur le déroulement de ce processus. Et effectivement, quand on suicide, ça va être un facteur qui va avoir une certaine part importante dans la direction qu'elle va donner, dans la coloration qu'elle va donner un petit peu à ce processus. Après, par rapport au fait, la relation avec la personne et le fait de se sentir coupable, etc. La culpabilité, dans le point de vue bouddhiste, déjà, ils connaissent pas ce mot en tibétain. Si on regarde vraiment la qualité de l'esprit au niveau de la culpabilité, si c'est quelque chose de positif ou de négatif, c'est quelque chose qui n'est absolument pas positif, ni pour soi, ni pour les autres. Donc, est-ce que développer un sentiment de culpabilité est utile pour nous ou pour les autres ? Absolument pas. Donc, c'est quelque chose qui, d'un point de vue bouddhiste, va être à pacifier. C'est pas quelque chose qu'il faut entretenir. Bien au contraire, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Donc, si par exemple, on commet un acte négatif, c'est-à-dire une action qui génère la souffrance à autrui, il y a un potentiel, une énergie négative qui a été créée, donc qui a entraîné la souffrance, et pour nous-mêmes, qui est une cause pour expérimenter soi-même de la souffrance. Donc il y a un des aspects qui va pouvoir neutraliser cet aspect négatif, qui est ce qu'on appelle le regret. Et c'est juste le fait de reconnaître en fait que cet acte était négatif, qu'il est cause de souffrance. C'est tout. Il y a un autre aspect, une autre force qui est de justement générer l'intention de ne pas recommettre un tel acte. Mais il n'y a absolument pas ce sentiment de culpabilité qui est de générer un sens de responsabilité exagéré et faux par rapport à l'implication qu'on a dans cette situation. Et c'est une attitude qui va avoir tendance à vouloir se faire souffrir soi-même, mais cette attitude ne va en rien réparer, ne va en rien être une force opposé qui va arriver à neutraliser l'aspect négatif qui a été généré. Donc, il faut absolument pas développer une telle attitude. Après, on verra aussi cet après-midi que par rapport à ce processus de la mort, par rapport à tous les individus quels qu'ils soient, de notre côté, d'un point de vue bouddhiste, il y a des choses qu'on peut faire pour favoriser un développement positif par rapport à ce passage. D'accord ? Ça va pour l'instant ? Donc en attendant, et cet après-midi, donc on va voir vraiment en détail le processus de la mort, donc les étapes quand on est en vie, quand on va se rapprocher du moment de la mort, on va voir d'un point de vue bouddhiste ce qu'est exactement le moment de la mort, qu'est-ce qui se passe après, donc il y a une étape qu'on appelle le bardo, l'état intermédiaire, et puis après comment on prend renaissance, où est-ce qu'on prend renaissance. Donc on va regarder ça un petit peu en détail cet après-midi. D'autres questions ? Fafa. Avec le micro, s'il te plaît.
Je vais revenir un peu en arrière. Quand tu parlais d'arracher la dame.
Oui.
En fait, c'est pas moi ce qui me poserait plus problème, c'est pas tellement la perte, mais c'est l'inquiétude de la souffrance, l'angoisse de la souffrance, la peur de la souffrance. Et je peux dire pareil pour si je pense à la mort, à ma mort, c'est vraiment ça qui me vient plus que la perte de l'attachement, plus que l'attachement, toutes ces choses-là.
Donc, par rapport à la peur de la mort, ce qu'il faut, la peur de la mort ou de la souffrance qui est liée à la mort, c'est il y a différents aspects. Je pense il y a la souffrance qui est expérimentée pendant le processus où on part, ok. Puis il y a ce qu'il y a après et la peur par rapport à l'inconnu, donc des souffrances qu'on pourrait avoir, etc. Après, tout simplement, on va voir justement par rapport aux différentes pratiques qu'on peut faire pour se préparer à la mort, mais pour arriver en fait à bien mourir d'une certaine manière, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on peut dire il faut tout simplement bien vivre d'un point de vue bouddhiste, c'est-à-dire créer les causes du bonheur. L'expérience de souffrance au moment de la mort ou après, etc., qu'est-ce que c'est? C'est simplement le résultat de causes qui ont été générés auparavant. Donc, c'est tout simplement neutraliser ces causes négatives avant qu'elles ne mûrissent, s'assurer de ne pas générer des causes de souffrance future, essayer de s'assurer d'avoir, de créer des causes d'expériences positives futures, essayer de créer la sagesse, qui est l'antidote parfaite à toutes les souffrances, qui va nous permettre d'obtenir le vrai pur bonheur, développer l'altruisme, etc. Et les grands pratiquants, encore une fois, quand ils meurent, c'est une expérience de pure extase. Tout simplement et purement. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé vraiment les qualités intérieures qui résolvent complètement la problématique dans laquelle on est. Donc en fait, d'un point de vue bouddhiste, vous savez, la mort, c'est qu'un petit passage. Et d'une certaine manière, en fait, c'est un passage où on retourne à l'essence de ce qu'on est. Vous vous rappelez, non, des moments où l'esprit le plus subtil se manifeste, et c'est à la rigueur là où il se manifeste la manière la plus flagrante, c'est quoi? La mort. Tout simplement. Donc ce qui nous pose problème au moment de la mort, ben, c'est tous nos attachements, etc. Donc aussi nos aversions, etc. Et les peurs qui sont générées par rapport à tout ça. Et si on veut partir tranquille, qu'est-ce qu'il faut faire? Justement, traiter ces aspects. Donc, c'est ces aspects négatifs de l'esprit.
Donc, en fin de compte, les gens qui se suicident se réincarnent quand même dans un état d'esprit négatif par rapport à l'acte qu'ils ont commis ou pas forcément?
Pas forcément. Ça dépend du cas de figure, ça dépend de la motivation, ça dépend vraiment de beaucoup de choses, mais on va voir en fait au moment de la mort que le dernier état d'esprit grossier, en fait, qui va être positif, négatif, est extrêmement déterminant dans la renaissance qu'on va prendre. Si c'est négatif, c'est pas forcément bon signe. Si c'est positif, là c'est bon signe. Mais encore une fois, les choses ne sont pas figées complètement. Dans l'état intermédiaire, il peut y avoir donc une direction qui a été donnée par ce dernier état d'esprit grossier, okay, mais dans l'état intermédiaire, il va pouvoir y avoir, entre autres, par l'intermédiaire de conditions extérieures, des changements de direction qui peuvent être opérés. Donc les choses ne sont pas si figées. Franck, avec le micro, s'il te plaît.
Oui, moi j'aimerais apporter un petit témoignage en fait par rapport à la vie et à la mort. Si j'ai bien retenu aussi, en fait dans le bouddhisme, il est clair aussi que nous avons des moments de renaissance, de vie et de mort à tout moment.
Attends,
dans
José,
je le mange trop.
C'est au niveau des aigus. Excuse-moi, c'est il y a devant là, il y a les enceintes qui vibrent beaucoup. Vas-y, parle comme
c'est
ça.
Bon,
il peut
régler, y aller là.
Comme ça, il peut régler.
Ouais. En fait, oui, moi je disais, il me semble bien avoir entendu que dans le bouddhisme, il y a des notions où on vit et on meurt un peu tout le temps, en fait. Et moi, j'aimerais apporter mon témoignage ici, en fait, en disant, il y a 10 ans, j'ai eu un accident, et c'est comme ça que j'ai perdu mon avant-bras. Et finalement, là, je sais très bien que je suis passé pas très loin de la mort. Et en fait, ben, ce que je peux dire, c'est que finalement, c'est pas douloureux finalement. C'est plutôt joyeux comme acte, puisqu'en tous les cas, après, c'est sûr que ça permet de se rendre compte que vraiment, ça peut s'arrêter à la seconde même qui suit. Ouais. Et du coup, ouais, on a un moment de peur. Enfin, moi, j'ai eu un gros moment de peur, un énorme moment de peur, mais qui a été très positif.
Et après, justement, je pense que cette expérience que tu as eue, ça te permet après de te débarrasser. Vous m'entendez là ? Non ?
Je crois que...
José, il a beaucoup baissé.
Il y a plus d'aiguille.
Donc après cet événement, ben, tout simplement, il permet justement d'avoir un regard différent sur la vie, un regard qui va être libéré de beaucoup d'attachements, d'aversion, donc de peur, d'ignorance, donc de peur qui en découle, et de profiter beaucoup plus de choses. Et autre chose que tu as dit qui est extrêmement intéressant, effectivement, dans le bouddhisme, on parle de vie, renaissance, à chaque instant. Si on est vraiment dans l'impermanence subtile des choses, c'est chaque instant est une mort, la fin tout simplement d'une expérience et le renouveau d'une autre expérience. Et si on regarde juste ça, il n'y a pas encore une fois l'attachement, l'aversion qui vont se construire sur cette ignorance qui cristallise, qui donne donc un aspect de durée aux choses, de permanence aux choses. Et c'est ça la problématique. Et ici et maintenant, si on développe cette sagesse, par exemple, qui comprend l'impermanence, okay, au moment de la mort, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe depuis toujours et ce qui va se passer encore après. Une succession simple de transformations, d'expériences, c'est tout. L'esprit perçoit ça, il n'y a aucun traumatisme par rapport à tout ça. Donc plus, encore une fois, tout simplement, en fait, on va être dans un état de sagesse, donc que tu as aussi décrit, Franck, par rapport à ton expérience, etc., plus les choses deviennent, d'une certaine manière, faciles, plus il y a vraiment un bien-être, plus on peut profiter, tout simplement, de la beauté de ce qu'on est, et plus il va y avoir la sagesse, plus on va vraiment voir l'essence de ce qu'on est, quelque chose qui est au-delà de tous les problèmes.
Et en fait, moi, je rajouterais aussi que finalement, ça a aiguisé certainement des choses en moi, c'est évident, mais finalement, c'est pas parce qu'on a un bras en moins, qu'on a une jambe en moins, ou quoi que ce soit en moins par rapport à la normale, que forcément, on est mal. Forcément, les choses sont difficiles, forcément. Moi, je connais un autre gars, alors lui, il est impressionnant. Alors lui, il est sur fauteuil roulant, il a un bras, et il est sur fauteuil roulant, il a pas de jambes. Et en fait, c'est une joie de vivre permanente. Donc, non, ça a pas trop de sens de penser qu'on
n'est
rien.
Effectivement, il y a la plupart de nos peurs sont des choses qui apparaissent sur la base de l'ignorance et elles sont complètement infondées. Voilà. On fait la pause du déjeuner, puis on se retrouve à 3h, peut-être, si vous voulez bien, donc pour tout simplement un petit peu regarder le point de vue bouddhiste du processus de la mort. Bon appétit !